Édicte religieuse par le père Philippe à Saint-Judas, le 6 juin 90.
Un certain temps d'offrande. l'aspect de cesse qui apparaît, vous voyez, en éthique simplement humaine, fondamentalement humaine, la cesse se ramène presque à un équilibre et une harmonie en vue d'aimer plus, en vue de mieux aimer. Au plan religieux, la cesse va beaucoup plus loin, parce que c'est l'offrande de notre corps qu'on fait à Dieu. C'est nous-mêmes qui nous offrons à Dieu. Et voulons glorifier Dieu par notre corps, par nos activités corporelles. Donc toutes les activités corporelles peuvent être sous l'influence de cette ascèse, l'influence de cette offrande. Seul Dieu t'adorera. des Maccabées, seconde lit des Maccabées, chapitre 7. On voit cette mère qui assiste au martyr de ses sept fils et qui les encourage tous, chacun après, qui les encourage pour aller jusqu'au bout, être fidèle. Et quand vous regardez bien le texte, tout ça est au niveau de la vertu de religion. C'est au nom de la loi. Et la loi est donnée pour former des êtres religieux. Avant tout. C'est une application. Là est impliqué le point de vue du martyr. Et non seulement le martyr, mais l'aide au martyr. Encourager les martyrs. Partie de la vertu de religion, ça. D'aller jusqu'au martyr, c'est-à-dire arriver à l'offrande totale de toute notre vie, en comprenant que notre vie n'a de but dernier que pour glorifier le Père. Notre vie n'a pas d'autre but que de glorifier Dieu. Dieu fera de notre corps ce qu'il veut après la mort. Ça, c'est parce qu'au point de vue religieux, je ne peux pas savoir ce qui deviendra après la mort. Mais c'est suffisant d'être dans les mains de Dieu. C'est suffisant de faire une totale confiance. Vous voyez, un total abandon. L'abandon suprême, c'est justement de tout mettre entre les mains de Dieu pour après cette vie. C'est l'abandon et la remise totale entre les mains de Dieu. Eh bien, je crois que la vertu de religion suffit à elle seule, à transformer la force pour nous faire comprendre que nous pouvons offrir notre vie pour témoigner de la grandeur du Créateur, pour témoigner que notre vie ne se termine pas à cette terre, donc de témoigner que Dieu est Père de notre âme, et que étant Père de notre âme est immortelle, et donc je ne peux pas nous abandonner. Martyr religieux. Et dans certaines circonstances, Dieu peut le demander. Il y en a eu sûrement beaucoup pendant la guerre. Le massacre des Juifs. Et ils étaient la plupart des âmes religieuses. Ils ont offert ça pour glorifier Dieu, montrer que pour eux, la vie terrestre n'était pas tout. Il y avait autre chose. Et là, par là, ils témoignent. Martyr, c'est d'être témoin. Ce qu'on dit du martyr, on peut le dire par rapport à tout ce que représente la maladie. Les périls de guerre, les mutilations, la tristesse, tout ça peut être transformé. De prolonger l'adoration. pas nous abandonner. Dieu ne peut pas nous réduire à rien. Ce serait contraire à sa sagesse du Créateur. Vous voyez ? D'un petit comme point de vue purement humain, je ne sais pas après tout. J'existe, mais je suis fait pour la mort. Qu'est-ce qui arrivera après ? On ne sait rien après tout. C'est peut-être un gouffre. Et je serai dans le nirvana, perdu. Qu'un seul être avec Dieu. Ça, je crois que dès qu'on a une attitude religieuse, on a une attitude personnelle, personnaliste et individualiste. C'est que chacun m'est créé par Dieu, directement. Et donc si chacun m'est créé directement par Dieu, chacun m'est dans les mains du Père, immédiatement. Il y a donc cette croyance Dieu ne peut pas nous abandonner parce qu'il nous a créés par sagesse et avec l'amour d'un père. Alors ça va très loin. Ça fait que la souffrance peut être offerte pour une purification personnelle. On se purifie par là. Les ultimes purifications. Ce que nous dirions en style chrétien, notre purgatoire sur terre. Il faut une purification avant de voir Dieu. Pas voir Dieu comme ça. On n'est pas assez pur. Et donc, toutes les souffrances de l'agonie, toutes les souffrances de celui qui meurt uniquement parce que il a, la mort est une conséquence du péché. Il a péché. Pas lui personnellement, mais en Adam. Et je crois que retrouver ce lien avec ces âmes qui sont consacrées à Dieu par la vertu de religion transforme toutes les misères de la terre. Ça leur donne un sens d'éternité. Parce que l'adoration de le sens de l'éternité. L'éternité n'est pas loin de nous. Et donc tout ce qu'on offre par amour rejoint une adoration, témoigne à la providence de Dieu. Justice. La justice est une vertu cardinale. Nous l'avons vu. Justice, dans cette vertu de justice éclairée par la vertu de religion, il y a tout un aspect de défense des droits de Dieu, tout un aspect de celui qui lutte contre les idoles, Gédéon. Dieu lui demande de lutter contre les hommes, d'aller briser l'autel de Baal. Ça, c'est la vertu de religion. La vertu de religion peut très bien nous faire comprendre que nous devons lutter contre toutes ces formes fausses d'adoration. crois que c'est ce qu'il y a de premier. Éviter par le fait même le fanatisme. Parce qu'il y a une passion religieuse du fanatisme qui peut être terrible. Étant donné la puissance de ce que c'est que la vertu de religion. Alors si on doit lutter contre les idoles, on ne doit pas tomber dans un fanatisme. Et il y a le juste milieu. Se laisser emporter par le fanatisme, c'est justement respecter la liberté religieuse. Et ça, je crois que c'est une éthique religieuse. C'est dans l'éthique religieuse qu'on doit comprendre ce que c'est la liberté religieuse. Vous voyez, si beaucoup n'ont pas compris ça, c'est parce qu'ils ne se sont pas placés du côté. Ils n'ont pas compris ce que c'était qu'une éthique religieuse. L'éthique religieuse consiste à respecter ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, son orientation religieuse, l'adoration. Et que c'est là où la liberté prend toute sa signification. Alors rappelez-vous là les différents moments de la liberté. Parce qu'il y a différents moments de la liberté. La liberté va naître en premier lieu par rapport à l'amour humain. Ce premier amour que j'accepte ou que je n'accepte pas. Mais quelqu'un de marié, par exemple, ou un religieux consacré à Dieu, peut sentir ce premier amour humain vis-à-vis bien personnel vis-à-vis d'une personne humaine, d'une personne. Et il peut très bien sentir la vigueur de cet amour, ce premier amour. Il l'accepte ou il ne l'accepte pas. Il dit oui ou non. Il est libre. Cinquième forme d'amour, la manifestation de cette conscience libre, toute la liturgie, tout le problème de la liturgie. Vous voyez, la liberté se donne selon des modalités très différentes. Et ceci est très important en éthique de se le rappeler. Autre chose, et regardez la liberté religieuse, autre chose, la liberté par rapport à un ami. Autre chose par rapport aux moyens. Alors je pourrais ajouter, dans un domaine tout à fait différent, sixième sens, la liberté de l'artiste très important, ça. Alors, comme s'il souligne ce fait de point de vue, la justice religieuse, la justice transformée par la vertu de religion, consiste à respecter chez l'autre sa liberté religieuse. Respecter la liberté religieuse chez l'autre, c'est-à-dire ne pas le violenter, ne pas l'obliger. Et cela ne veut pas dire que je ne suis pas un témoin de ce que je crois de la vérité. Et donc, je dois, comme je respecte la liberté d'autre, exiger de lui qu'il respecte ma liberté. Et lui faire comprendre que, en tant qu'homme, j'ai découvert que la liberté religieuse, c'était de reconnaître le Dieu unique et véritable, le Créateur. Vous voyez, être respectueux de la liberté de l'autre ne consiste pas à mettre son drapeau dans sa poche, ne consiste pas à dire chacun sa religion. Ce domaine-là est purement d'intérieur, je ne m'en occupe pas. Pas le droit du tout de dire ça. Parce que si j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait confidence sur sa religion et qui m'a expliqué, je suis co-responsable. Et donc, je dois l'éclairer. Mais je dois l'éclairer avec intelligence. Et comment éclairer quelqu'un avec intelligence? Quand il s'agit du domaine religieux, c'est devenir un ami. Par l'amitié, vous pouvez éclairer un ami sur sa religion, mais pas autrement. C'est par le biais de l'amitié. Par le biais de l'amitié, vous pouvez dire des quantités de choses. Vous pouvez faire comprendre à quelqu'un qui dérape, qui s'est laissé prendre, enthousiasmé par quelque chose, mais que ce n'est pas très raisonnable. Et vous le ramenez toujours à ça. Je crois que c'est le seul moyen. Je ne crois pas que quelqu'un d'étranger puisse intervenir dans la conscience religieuse de quelqu'un sans risquer de faire un mal énorme. Vous êtes témoin, vous n'hésitez pas quand c'est l'heure, quand c'est le moment de témoigner, et pas plus. Parce que le respect de la conscience religieuse et la liberté religieuse, ça va très loin. Vous sentez en vous-même, du reste. Vous n'aimez pas que quelqu'un vienne dans votre liberté religieuse vous attaquer parce que vous êtes chrétien, parce que vous adorez un seul Dieu. Quelqu'un viendrait dire, mais non, il y en a plusieurs. Alors, un gosse, ça va. Vous dites, tais-toi au bout d'un certain temps. Mais une grande personne, ça va pas du tout. Si c'est un ami, on peut discuter. Oui. Ça qui est très intéressant, c'est les interférences entre l'amitié et la liberté religieuse. Mais c'est un problème très actuel, vous comprenez bien, depuis le concile, c'est devenu un problème très actuel. Et on a le devoir d'avoir ce problème très net. Qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse? C'est respecter donc que l'homme est capable par lui-même de découvrir l'existence du seul véritable Dieu. Il est capable par lui-même. Alors il faut l'éclairer, il faut l'aider. Et c'est là où vous pourrez prendre ce que Nietzsche dit à propos de ce fou, cette lampe. C'est que Dieu, il avance comme un fou. Il faut accepter de temps en temps d'être considéré comme un fou. Devant des gens très sages, positivistes, pur positivistes, agnostiques, leur dire ouvertement, quand ils vous questionnent, pas diluer la question. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Quand c'est en face d'un milieu très sélect, de gens savants, de polytechniciens, saisir le pied par lequel on peut à la fois respecter la conscience et montrer que ce respect de la conscience, c'est parce que la vérité dans le domaine religieux est capitale pour l'homme. C'est sa destinée. Et donc on a un très gros respect là-dessus. Et le manque de respect là-dessus, voilà pour vrai, qu'on ne considère pas que l'attitude religieuse est fondamentale pour l'homme. Et on peut renverser l'opinion des autres. Parce que c'est fou de ne pas accepter la liberté religieuse. Dieu lui-même l'accepte. Puisque Dieu ne fusille pas tous ceux qui adorent des idoles. Alors ça prouve que Dieu lui-même a laissé à l'homme cette liberté fondamentale qu'est la liberté religieuse. Mais en même temps, Dieu nous demande à chacun d'entre nous d'être des témoins de la vérité religieuse, donc de notre point de vue d'adoration. C'est très très important là-dessus. Très important de bien saisir ce qu'est la liberté religieuse. Je ne fais que signaler ici. Elle était faite, du reste, hein, pour montrer que, de fait, la liberté religieuse est quelque chose qui est grand. C'est pas du tout une position apologétique. C'est au contraire une position qui montre que l'homme a le gouvernement de sa propre vie, de son corps. Liberté liturgique. Ah. Ça aussi, ça fait partie de la vertu de religion qui vient transformer la justice. Puisque la justice est le fondement entre l'éthique personnelle et l'éthique politique. Et donc, il y a une interférence qu'on peut souligner ici. Et la liturgie, forcément, elle n'est pas uniquement personnelle. La liturgie est familiale, et elle est communautaire. Un État, puisque rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, un État comme l'État turc, puisque là je prends l'exemple net, un État qui veut, au nom de la liberté, restreindre toute manifestation assez légitime. J'ai pas le droit d'interdire la chose. J'ai le droit de poser des conditions pour ce parcours. Surtout si, en dessous, on devine un fanatisme.
intéresse.
Oui, alors là, vous touchez les intentions. Moi, je regarde l'incinération comme acte public, liturgique. L'Église a permis. L'Église, pendant très longtemps, a défendu. L'Église, actuellement, a permis. Oui. J'avoue que on peut avoir des sensibilités différentes, mais moi, c'est vrai, il y a quelque chose qui est désagréable. Le cas où j'ai assisté l'autre jour, comme ça, c'était à Genève. À Genève, ça se multiplie énormément. Parce que justement, c'est les villes, et puis c'est les villes qui... Le protestantisme, au fond, depuis très longtemps, l'admet. Vous assistez à l'office, et puis après, le corps est dans... Et puis on attend, et puis vous recevoir le... J'avoue que c'est pas très agréable. Et c'est pas uniquement une question, je suis persuadé que c'est pas uniquement une question de sensibilité. Ça va plus loin. Ça touche un respect du corps. Et donc, de la personne, ça va jusque-là. Alors qu'on accepte, très bien, je ne dis rien. C'est vrai, on peut pas. On obéit, l'Église laisse la liberté, mais ça n'empêche pas qu'on puisse éduquer le sens religieux par rapport à la sépulture.
Quand je parle pas tellement de la prémotion au sens dans la manière hindoue, mais dans la manière occidentale, peut-on même dire que, puisque c'est un. Le feu est complètement en absence de la communauté, on peut dire que c'est même comme cérémonie, c'est vraiment profondément anti-religieuse, parce qu'on...
Oui.
Au niveau
éthique religieux... Je sais. En point de vue éthique religieux, je dirais que c'est sûrement un manque terrible. Oui. Parce qu'on oublie... Alors là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On oublie que la plus grande leçon que Dieu nous donne, c'est la mort. On l'oublie. C'est la conséquence du péché. Donc, c'est la plus grande leçon que Dieu nous donne. Et elle est tangible. Et donc, tout ce qui regarde la mort doit être regardé de façon liturgique. Vous voyez, c'est pour ça que c'est désastreux de voir que, alors, au point de vue liturgique chrétienne, si vous voulez, qu'on n'a plus le sang.